qu'affrontaient les prêtres ouvriers là, m'ont donné ce témoignage qu'ils comprenaient très bien que dans le monde d'aujourd'hui, cette recherche philosophique était absolument nécessaire. Je citais tout à l'heure ce religieux qui disait que c'est pas la peine, je l'ai chartreux. D'autres, dont Jean-Baptiste par exemple, la première.
Qui est donc Jean-Baptiste?
Dont Jean-Baptiste, un chartreux qui est très âgé actuellement, qui est dans la chartreuse.
La Val
Sainte.
Il est mort.
Il est mort. C'est sûr.
Il est
mort quand? Dont Jean-Baptiste. Chartreux de la Val-Sainte, quand il y a eu l'édition de sur l'être, m'a écrit une petite lettre en disant: Père, merci pour les chartreux, parce que le plus grand danger que je vois actuellement chez les chartreux, c'est qu'ils ne cultivent plus cette recherche de la vérité au plan philosophique, ce qui introduira à la chartreuse des divisions terribles. Et je crois que c'est très vrai. Si, à l'intérieur de la chartreuse, il n'y a plus cet enracinement foncier d'une recherche de la vérité, au plan philosophique et au plan de la philosophie première, de la métaphysique, on tombera dans des luttes internes et la place de contempler, on tombera dans les discussions. Quelqu'un, alors tout à fait autre, l'abbé Godin, que j'ai très bien connu, qui venait régulièrement au Saulgeois, tous les mois.
Qui est l'abbé Godin?
L'abbé Godin, c'est celui qui a été le premier prêtre ouvrier. Et je me souviens très bien quand il m'en a parlé. Il savait très bien que c'était très grave. Et il savait très bien le danger qu'il y avait. Et il m'avait dit, il ne faut surtout pas que les prêtres ouvriers fassent un sacerdoce double avec le sacerdoce classique. Et lui sentait la nécessité de le faire pour pouvoir rejoindre l'ouvrier là où il était et pour pouvoir l'aider, le soutenir dans une présence. Et bien, la dernière fois que j'ai vu l'abbé Godin, ça m'a beaucoup frappé. Il ne pouvait pas savoir que c'était la dernière fois puisqu'il est mort d'une façon accidentelle. Il me quittait, il me voyait toujours une heure quand il venait au Saulgeois. Il me quittait, il était à la porte. Et puis il est revenu en me disant: Père Philippe, je vous demande une chose, je vous en supplie, restez toujours ce que vous êtes. Alors je dis quoi? Oui, contemplatif et théologien et philosophe, en recherchant la vérité. L'Église a beaucoup plus besoin d'hommes comme vous que de ceux qui sont, dans leur générosité, complètement donnés à la recherche de ceux qui sont perdus. Il faut les deux, il a ajouté. Mais vous aurez la tentation, peut-être, de quitter cette place pour être plus proche des pauvres, des malheureux que vous aimez. Restez là où vous êtes. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à un moment donné, au bout de 10 ans que j'étais à Fribourg, j'ai posé ce problème à Marthe. J'ai dit: Marthe...
Nous parlerons après de Marthe Robin, hein, dans le... un peu plus tard. Donc, dites en deux mots que c'est une mystique.
Oui, celle qui était à Châteauneuf et qui était la source de tous les foyers de charité. J'ai dit: Marthe, vous ne croyez pas que ce serait beaucoup mieux que je demande de ne plus enseigner à Fribourg, à l'université, et d'aller prêcher à toutes les contemplatifs et les contemplatives, puisque je reçois constamment des demandes, et je pourrais passer toute mon année à prêcher à des carmels, à des bénédictines, à des clarisses, à des dominicaines. Ce serait bien mieux que d'enseigner ici à l'université, où on a l'impression que quelques-uns comprennent, et puis les autres ne comprennent pas du tout. Ils sont là pour passer des examens. On n'est pas là pour aider à faire passer des examens, on est là pour être témoin du Christ. Et alors Marthe s'est tue quelque temps, et puis elle a répondu: Père, non, non, ne quittez pas Fribourg. Vous êtes plus utile à l'Église, dans votre enseignement de la philosophie, que d'aller prêcher à des contemplatifs. J'avoue que sur le point de départ, je n'ai pas compris du tout. Vous êtes plus utile enseignant la philosophie comme vous le faites, dans ce désir de recherche de la vérité. Après, je l'ai compris, hein. Mais sur le moment même, ça m'a... J'ai dit très bien, parce que j'ai insisté, j'ai dit, Marthe, vous me dites ça vraiment dans la prière, en demandant à Jésus si c'est bien ce qu'il veut sur moi. Et Marthe a dit, oui, je peux vous l'affirmer. Elle, petite paysanne, dire ça, ça rejoignait bien ce que disait l'abbé Godin, ça rejoignait bien ce que disait Don Jean-Baptiste. Et je dirais, actuellement, le Saint-Père, chaque fois que je le vois, il me demande si la métaphysique se porte bien. Et la dernière fois, il m'a dit, Père Philippe, avez-vous des successeurs? Et puis, deux minutes après, il a dit, mais père, où enseigne-t-on encore la métaphysique? La vraie! Ça m'a beaucoup impressionné. Où enseigne-t-on encore la vraie métaphysique? C'est un des grands soucis du pape, parce qu'il voit bien que toutes ces erreurs théologiques d'aujourd'hui proviennent d'un manque de philosophie, d'un souci de générosité trop immédiate, où on ne remonte pas suffisamment à la source. Alors on se précipite. Et quand on se précipite, quand il s'agit d'une sagesse, on quitte ce regard de sagesse. On quitte ce regard de vérité divine.
D'ailleurs, Jean-Paul de lui-même a fait un très gros effort de philosophe dans sa vie. Ça fait beaucoup de temps la philosophie. Vous vous connaissiez comme philosophe.
C'est très rare qu'on ait un pape philosophe. J'ai pas de piquant, il y en avait. Au Moyen-Âge, ils étaient philosophes dans le sens que c'était la théologie. Mais un pape philosophe, c'est-à-dire un pape qui était professeur dans une université comme professeur de philosophie, c'est quand même assez rare. Et c'est quand même quelque chose de très grand. Et c'est très vrai que mon premier contact avec le pape, avant qu'il soit pape, c'était ça, c'était au plan philosophique et toutes nos questions et nos réponses et le dialogue qu'on avait était à ce niveau philosophique, comme recherche de la vérité dans notre monde d'aujourd'hui. Et une fois, je lui ai demandé, très Saint-Père, je voudrais bien entrer pleinement dans votre philosophie. C'est bien le souci de connaissance de l'homme, donc d'une anthropologie, mais une anthropologie ouverte à la métaphysique, sachant que l'homme, on ne peut pas l'étudier pleinement si on ne découvre pas en lui ce souci, ce désir de découvrir l'existence de Dieu. Et il y a eu un petit silence, et le pape, avec une très grande simplicité, humilité merveilleuse, m'a dit merci père de me dire ça. J'ai trouvé ça très beau. J'avais le souci filial d'entrer pleinement dans son point de vue, non pas parce que je quittais le point de vue philosophique, mais pour être bien en conformité avec lui et puis pour bien le comprendre et lui souligner que c'était bien cela son souci. Et c'est vrai, je crois aujourd'hui, plus qu'on ne pense, beaucoup le sentent, que les erreurs les plus profondes aujourd'hui viennent d'un manque de philosophie. Je pourrais dire, je ne les nomme pas parce que je ne veux pas les y nommer, mais certains évêques me l'ont dit. Toutes les erreurs modernes d'aujourd'hui proviennent de la philosophie.
Alors une question importante, et je crois qu'il faudrait en parler avec toute liberté, surtout qu'il est mort maintenant. Vous avez côtoyé quelques grands théologiens, dont le père Chenu, qui a été au Solchoir avec vous très longtemps, qui ont beaucoup marqué le XXe siècle sur le plan théologique. Est-ce que vous avez pu parler de tout ça avec eux? Est-ce que vous avez pu avoir des échanges profonds sur la théologie aujourd'hui? C'est cette question de la philosophie qui manque avec le père Chenu. Et quels ont été vos contacts avec quelqu'un qui avec cette grande figure du XXe siècle?
C'est sûr, j'ai bien connu le père Chenu. J'allais dire doublement. Parce que nous étions dominicains, parce qu'il était régent des études quand j'étais étudiant, et puis aussi parce que je m'appelais Marie-Dominique, et lui s'appelait Marie-Dominique. Alors il y avait un petit lien secret, profond. J'ai toujours aimé beaucoup le Père Chenu, ça, jusqu'au confiance mutuelle, parce que le père Chenu était un grand religieux. Un religieux merveilleux. Je pouvais lui parler ouvertement et lui dire ce que je pensais. Et plusieurs fois, il savait bien que je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il disait. Mais il voulait que j'enseigne au Saulgeoir. C'est lui qui m'a choisi comme professeur du Saulgeoir. Et comme professeur de dogme, il était tout à fait d'accord. En me disant, à sa manière, il faut que le dogme soit enseigné. Et pour que le dogme soit enseigné, il faut des métaphysiciens. Donc il était très lucide là-dessus. Il ajoutait avec humour, si le dogme n'est plus enseigné, et s'il n'y a plus de métaphysiciens, je vois plus ce que je vais faire, moi. Parce que je suis là pour rappeler tout le temps le point de vue du conditionnement humain. Mais il était suffisamment intelligent pour savoir que si la finalité n'était pas affirmée, et si la recherche de la vérité n'était pas affirmée, dans toute sa force, la recherche du conditionnement n'avait plus grand intérêt. Mais évidemment, il était très pris par cela, ça c'est sûr. Il était très pris par tous les problèmes contemporains. C'est peut-être là où il m'aurait critiqué d'être trop, je ne dis pas contemplatif parce qu'on ne l'est jamais trop, mais peut-être d'être trop pris par une recherche de vérité métaphysique. Il en reconnaissait la nécessité. Toujours. Il ne m'a jamais critiqué là-dessus. Jamais. C'est les disciples du Père Chenu qui comprenaient moins bien. Mais pas le Père Chenu. Lui comprenait cette nécessité. Et il m'a toujours soutenu. Et il me soutenait énormément dans cette recherche de philosophie. Pour elle-même, quand je lui ai dit qu'en théologie, je travaillais Aristote et que je le travaillais avec acharnement, il m'a dit c'est très bien, il faut entrer dans la pensée d'Aristote. Parce que toujours pour lui, en historien, c'était le trépied de saint Thomas. Il était heureux que je cherche dans Aristote une vérité philosophique, une vérité de philosophie première, métaphysique. Donc il me poussait vers cela. Il ne m'a jamais freiné de ce côté-là. Il y avait chez le père Chenu, je crois, le personnage que tout le monde voyait. On en faisait un peu un révolutionnaire. Et puis il y avait chez lui le religieux contemplatif. Et il y avait chez lui celui qui aimait beaucoup saint Thomas. Et il savait quand même que saint Thomas aimait Aristote et que la grandeur de saint Thomas, c'était son retour à Aristote. Considère un tout petit peu comme un aspect révolutionnaire de saint Thomas. Alors que je dis, c'est pas un aspect révolutionnaire de saint Thomas, c'est tout simplement un amour de la vérité. Alors, il faut quelquefois rompre avec tous ceux qui sont autour de nous pour chercher cette vérité. Et je crois que c'est ce qu'a fait saint Thomas. Et c'est ce qu'on doit faire quand on est dans des circonstances particulières où on voit que la vérité n'est plus recherchée. On accepte d'être seul. On accepte de cheminer seul. Ce que Peggy dit, celui qui cherche la source, doit accepter d'être seul. C'est vrai. Mais en même temps, on a des amis très forts. Tous ceux qui recherchent la vérité. On a des amis, ils sont Don Jean-Baptiste, l'abbé Godin, Marthe, dans des circonstances très très différentes. Mais c'était des amis. Et je pourrais citer, dans l'ordre dominicain, quelqu'un comme le père Ramirez, que j'avais connu peu de temps à Fribourg, auquel j'avais posé quelques problèmes, parce que Ramirez était encore un de ces vieux dominicains, à la manière de Bagnèze, un vieux scolastique, mais un grand scolastique. Quand je lui dis, je crois qu'on ne peut plus enseigner la philosophie comme on l'a enseigné dans la tradition de l'ordre, c'est-à-dire d'une manière scolastique, il m'a regardé, il m'a dit expliquer un peu, et je lui ai expliqué sur certains points en disant, voyons, on fait des confusions énormes. On commence la métaphysique par les transcendentaux, ça c'est du Suarez, c'est pas du saint Thomas. Les transcendentaux dans saint Thomas, c'est une perspective critique, et on ne doit pas commencer la métaphysique par la critique. Si on commence de cette manière-là, on ne peut plus en sortir, il faut tout reprendre. Je lui ai expliqué comme ça sur certains points des questions que je me posais, et j'étais très heureux de rencontrer un dominicain qui avait enseigné la philosophie pendant de longues années, puis après enseigné la théologie morale. Eh bien, quelqu'un comme Ramirez m'a dit « Oui, vous devez continuer comme ça. La scolastique, c'est terminé. Moi, je suis engagé dedans, je continue. Mais c'est terminé, on ne peut plus rester là-dedans. Il faut tout reprendre en philosophie. » Et il m'a soutenu de façon telle que tous les soirs, à l'Albertinum à Fribourg, un Ramirez qui ne sortait jamais sa cellule, au dire du père de Ménas. Ah bon, le père de Ménas m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a, Ramirez? Tous les soirs, il vient chez vous. Et tous les soirs, on discutait longuement. Alors, j'ai souri, j'ai dit, c'est parce qu'on fait de la philosophie ensemble, et on discute certains points ensemble. Et ça a beaucoup frappé le père de Ménas. Moi, ça me frappait moins parce que je ne connaissais pas les mœurs de Ramirez. Mais c'est un vieux loup qui restait dans son coin, dans sa tanière. C'était quelqu'un qui avait un souci de vérité, un désir de vérité, mais qui, lui, comprenait qu'il fallait aller vers quelque chose de très nouveau. Qui était un retour à la fois à quelque chose de très ancien, mais avoir cette liberté de se dégager de cette scolastique décadente pour reprendre quelque chose de profond et de radical. Mais il était très catégorique, Ramirez. Ramirez m'a dit des choses très étonnantes parce qu'il avait tout lu, Ramirez. C'était un Espagnol acharné à la recherche de la vérité. Alors il avait tout lu, il avait lu tout Aristote, bien évidemment, tous les commentateurs d'Aristote et toute la philosophie moderne. Et un beau jour, il m'a dit: oui, cette philosophie à partir de Descartes, elle ne m'a fait découvrir aucun nouveau principe. On reste là dans des descriptions. C'est très intéressant. Mais il n'y a pas un seul principe. Alors, c'était merveilleux de voir quelqu'un comme Ramirez qui, au fond, était là, à l'intérieur de l'ordre, pour me dire, oui, marcher dans ce sens-là. Et aller dans ce sens-là, c'est pas les modernes qui vous donneront une vérité nouvelle. Il faut les lire pour savoir ce que le monde d'aujourd'hui pense. Mais qu'est-ce qu'ils vous donneront comme nouvelle découverte de l'homme? Alors c'était une confirmation merveilleuse. C'est pour ça que cette rencontre avec Ramirez pendant 4 mois à Fribourg a été pour moi quelque chose de merveilleux.
Il était le supérieur de l'ordre?
Non, Ramirez était professeur de théologie morale à Fribourg, et puis il a été appelé à Salamanque comme recteur de Salamanque. D'accord. De l'université de Salamanque.
Pour revenir une dernière fois, peut-être que vous ne pourrez pas le dire, avec au père Chenu, est-ce que vous avez des discussions philosophiques avec lui sur sa propre philosophie, sur vos divergences, vos convergences?
Le père Chenu, quand je disais, attention, vous êtes là dans des perspectives que je crois qu'ils ne sont plus la recherche de la vérité. Père Chenu se défilait. Ça, je ne suis pas philosophe, moi. Je ne suis pas philosophe. Oui, il se défilait. Et il n'aimait pas beaucoup Cocon. Mais j'étais auprès du père Chenu. Et ça, c'est un moment qui a été très, très grand. Quand il a appris par la TSF que Rome avait rejeté son petit livre, Le seul choix à l'école de théologie. Et la réaction du père Chenu, c'est-à-dire, si ma mère a entendu ça, vous voyez que pour elle, son fils qui écrit un livre et que Rome rejette, j'ai touché là le cœur du père Chenu. C'était cet amour filial à l'égard de sa mère. C'était tout de suite la blessure, c'était pas la sienne. C'était celle de sa mère. Et ça expliquait cet amour très profond du père Chenu pour la Vierge Marie, qui était très fort, mais qui n'en parlait pas. C'est pour ça que quand j'entends certains d'aujourd'hui parler du père Chenu, je dis, mais non, ils ne savent pas ce que le père Chenu était. C'était un peu comme l'abbé Godin. J'ai entendu des conférences sur l'abbé Godin. Comme si l'abbé Godin, je dis, mais ils ne connaissent pas. Ils voient l'extérieur. Ils ne connaissent pas que ces hommes-là étaient des hommes avant tout de Dieu, qui ont compris ce qui se passait dans le monde d'aujourd'hui, que la classe ouvrière était perdue pour l'Église et qu'il fallait tout faire pour tout quitter. Le bon pasteur qui quitte tout pour la brebis perdue, et qui ne voyait pas que ces hommes-là restaient profondément attachés à la recherche de la vérité, au Christ, à la Vierge Marie, et qu'on était de plein pied avec ces gens-là, et qu'ils étaient eux pour confirmer ce qu'on cherche. Je ne dis pas que le Père fut, je n'y aurais confirmé tout ce que je faisais, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il y a eu des rencontres profondes qui ont permis de saisir ce que c'était que ces hommes-là. Beaucoup plus profond que ce qu'on montrait d'habitude. Parce que c'était quand même quelqu'un qui cherchait la contemplation. Ce qui expliquait comment le Père Genu n'a jamais écrit, ne s'est jamais révolté. Parce qu'il y avait en lui un lien avec le Christ, avec la Vierge Marie, qui était si profond.
Alors vous avez connu, c'est intéressant parce que vous en parlez là de vous-même, cette période très très trouble et très mouvementée de l'ordre dominicain, où il y a eu cette condamnation des prêtres ouvriers. Il y a des livres qui sortent en ce moment assez polémiques sur le sujet. Et vous avez également, par votre frère, le père Thomas, été mêlé à des sombres histoires dans l'ordre. Est-ce que, je crois que pour l'histoire, ce serait intéressant que vous puissiez dire ce que vous pouvez dire sur toute cette période extrêmement confuse. Il y a eu beaucoup de condamnations, de délations.
C'est délicat parce que le père Thomas est encore en vie. Donc c'est assez difficile.
Est-ce que vous pouvez dire actuellement...
Évidemment, j'ai connu à ce moment-là une période extrêmement... Je ne dirais pas historique, mais une période extrêmement douloureuse. Parce qu'au fond, le père Thomas venait de Rome comme visiteur. Et moi, je faisais partie du sautoir. Donc, j'étais comme visité. Ou comme ceux qui de fait, faisaient partie de cette école de théologie. Alors, ce qui est très vrai, c'est que quand Père Genu écrivait le sautoir, une école de théologie, il y avait au sautoir des tendances très diverses. Il y avait au sautoir ceux qui aimaient profondément Saint Thomas. On enseignait la métaphysique au sautoir. Et on l'enseignait d'une façon profonde. Je l'ai enseigné pendant plusieurs années. Et j'essayais, et les étudiants écoutaient. Il y avait un contact profond avec eux. Il n'y avait pas du tout d'opposition. J'ai enseigné même la philosophie pendant quelques années, du moins, pas pendant quelques années, plusieurs fois, à la mission de France. Et je n'ai pas pu continuer parce que Rome n'a pas accepté qu'il y ait un professeur qui vienne uniquement d'une façon ponctuelle. Autrement, ça m'aurait intéressé beaucoup d'enseigner une philosophie qu'il trouvait vivante du reste. C'est cette fameuse dialogue que je raconte de temps en temps que j'ai eu avec des prêtres ouvriers à Limoges, au Carmel de Limoges, où je venais prêcher parce que je connaissais bien le Carmel de Limoges. Et la mère supérieure m'a dit, est-ce que ça ne vous dérange pas à midi de déjeuner avec les prêtres ouvriers qui viennent régulièrement ici pour prendre leur repas? Je crois que c'était toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Je dis, au contraire, je suis très heureux de les rencontrer. Alors comme j'étais en habit, et eux étaient dans leur tenue de prêtre ouvrier, tout de suite ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai dit, oui, j'enseigne la philosophie à Fribourg. Alors ils m'ont posé, quelle philosophie? Alors évidemment, je savais très bien ce que ça voulait dire. Je leur ai dit, mais alors, pour vous, il y a plusieurs philosophies. Donc à la place d'être interrogé, je les interrogeais. Alors à ce moment-là, ils ne savaient pas très bien quoi dire. Je dis, pour moi, la philosophie, c'est la recherche de ce que c'est que l'homme. Et d'essayer de dire des choses vraies. Alors à ce moment-là, je leur ai dit, vous êtes prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Eh bien moi, je fais la philosophie pour connaître l'homme. Or, vous ne pouvez pas connaître parfaitement l'ouvrier si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme. Et alors, il me dit, mais comment vous faites? Je dis, je prends les expériences, comme vous. Vous cherchez l'expérience de l'ouvrier. Moi, je cherche les expériences de l'homme. Quelles sont les grandes expériences de l'homme? Et toute ma philosophie repose sur ces expériences de l'homme. J'ai développé ça. Ils étaient là, ils écoutaient, c'était merveilleux. Tu vois, c'est un an, on faisait un petit cours de philosophie. Alors tout d'un coup, il y en a un qui a dit, mais ça doit être très intéressant, cette philosophie. Ben, je dis, je comprends, c'est pour ça que j'enseigne. Si elle n'était pas intéressante, j'enseignerai pas, vous savez. Je ne veux pas être quelqu'un qui ennuie les étudiants, c'est pas la peine. J'aurais dit, venez. Et elle a dit, si on était libre, on viendrait. Ça nous intéresserait beaucoup d'entendre ce que c'est que la recherche de l'homme. Je dis, mais c'est pas étonnant, parce que vous êtes constamment penché devant le problème de l'ouvrier. Or, je crois que c'est pas le problème de l'ouvrier qu'il faut chercher en premier lieu. C'est le problème de l'homme. Quand je parle au patron, et quand je parle à Fribourg, je leur ai dit à ce moment-là, au secrétaire des syndicats, chrétiens, catholiques et protestants, je leur parle de l'homme. Je dis, n'oubliez pas, votre rôle, c'est de chercher l'homme. Et je dis la même chose au patron, et un beau jour, ces secrétaires des syndicats chrétiens, on dit, mais de Paris, que vous parlez au patron à Paris, ça nous intéresserait de savoir si ce que vous dites à eux. Je dis exactement la même chose qu'à vous. Parce que j'essaie des deux côtés de dépasser le point de vue du patron, le point de vue de l'ouvrier pour redécouvrir ce que c'est que l'homme. Et pour moi, toute ma philosophie, c'est ça. Et grâce à ma philosophie, je peux dépasser ce comportement de l'ouvrier et ce comportement du patron. Pour redécouvrir, au-delà de ce comportement terriblement lourd, de la dialectique marxiste, au-delà de la dialectique hegelienne, du maître et de l'esclave, du patron et de l'ouvrier, pour découvrir que on doit dépasser cette opposition pour redécouvrir cette finalité. C'est toujours la même chose, c'est qu'on reste en face d'un comportement, je sais très bien, qui est lourd à porter, c'est pas commode, de dépasser le comportement de l'ouvrier. C'est pas facile de dépasser le comportement du patron. Mais là, le philosophe et le théologien doivent faire ce dépassement. Autrement, c'est impossible. Je crois que c'est cela qu'on doit faire aujourd'hui pour être un homme qui, justement, donne la paix du Christ.
Là, on parlait, père, de la crise de l'ordre dominicain. Là, vous êtes parti là sur
un développement qui a été parce que justement, je n'aime pas tellement de parler de la crise d'un ordre que j'aime et dans lequel j'appartiens et auquel je veux. Oui, j'ai connu le Solchoir, j'allais dire, dans sa plus grande prospérité. 1931. J'arrivais en 31. Le père Chenu était régent des études. Mon frère était professeur de philosophie. Et il y avait à ce moment-là, je ne sais pas moi, 120 au Solchoir. Donc une centaine d'étudiants. Pas uniquement des dominicains, il y avait aussi des saliciens, les noirs, comme on disait, qui venaient et qui suivaient les cours. Et le Solchoir avait à ce moment-là une vitalité très grande, très profonde. L'enseignement du Solchoir était extrêmement intéressant, en raison même de sa vitalité. La philosophie était enseignée par le père Thomas, donc dans une perspective scolastique, très saine et très grande. C'était du genre de saint Thomas. C'était pas de l'Aristote, c'était du genre de saint Thomas. Mais du genre de saint Thomas représentant la scolastique, thomiste, ce qu'il y a de plus grand. Et le père Thomas l'enseignait avec beaucoup d'ardeur et d'une manière extrêmement vivante pour beaucoup d'étudiants. Les deux cours les plus vivants, c'était ceux du père Thomas et ceux du père Chenu, qui, au fond, avaient l'un et l'autre une ardeur dans leur enseignement qui était très grande. Et quand on était suffisamment perspicace, on voyait que c'était pas tout à fait la même chose. Mais, j'allais dire, selon la modalité extérieure, c'était l'un et l'autre des cours très très intéressants. Les cours du père Thomas, je les ai beaucoup aimés une fois que j'ai commencé à les comprendre. Où il y avait une espèce de renouveau thomiste grâce à Bergson. Le père Thomas dialogué beaucoup avec Bergson. Bergson était évidemment un des philosophes de cette époque qui était très grand, très beau. Et le père Thomas avait une capacité d'intuition très remarquable. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi intuitif que le père Thomas. Donc, proche de Bergson. Très proche de Bergson, sous ce point de vue-là. Puisque Bergson, c'est l'intuition. Mais cependant, avec tout l'apport scolastique de Jean de Saint-Thomas, de Saint-Thomas, auquel il y avait une fidélité très grande à Saint-Thomas et à Jean de Saint-Thomas. Donc, au seul choix, cela existait d'une façon très vivante. La scolastique n'était pas du tout quelque chose de mort. Il y avait évidemment certains professeurs qui étaient moins vivants et qui donnaient des cours, ben, comme toujours, quoi. Il y a des professeurs vivants et des professeurs qui sont moins vivants. Professeur non, moins vivant, je ne le nomme pas, mais qui enseignait un peu l'histoire de la philosophie grecque, c'était très peu de choses. Hein. Il n'était pas très vivant, et comme au Solchoir, il y avait le grand parc dans à côté de la salle de cours, il y avait un étang. Tout d'un coup, petit épisode, toute la salle des étudiants s'est trouvée debout, regardant par la fenêtre une couvée de canards sur l'étang qui intéressait bien plus que le cours du professeur. C'était quelque chose d'assez remarquable. On s'est tous trouvés à regarder. Le professeur s'est mis à regarder lui aussi ce que les autres étudiants. Puis ça a recommencé. On était en famille. Le climat était très familial au Solchoir. Et très beau. Il y avait de très beaux offices. Il y avait une vitalité religieuse prodigieuse à laquelle le père Genu n'était pas du tout en opposition. Au contraire. C'était un homme profondément religieux, le père Genu, et qui aimait ses étudiants, et que les étudiants aimaient. Et le père Genu s'est mis à écrire cette petite plaquette, le seul soir à une école de théologie.
Il disait quoi?
Qui ne montrait pas en réalité ce qu'était le seul soir, mais c'était l'idée que le père Genu se faisait du seul soir. Et cette idée du père Genu du seul choix, c'était toujours le point de vue de l'histoire et l'histoire des dogmes. Parce que c'est César qui l'enseignait, c'était l'histoire des dogmes. Et il montrait qu'il fallait ce nouveau tournant à la théologie, l'intégration de l'histoire au même plan que l'aspect métaphysique sous-jacent à la théologie. C'est cela qui a été condamné. Parce que le père Genu aurait pu montrer le complément de l'histoire à l'aspect dogmatique. Ça aurait été très bien. C'est au fond, c'est ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait dans ses cours d'histoire des dogmes, c'était de montrer toutes les circonstances de temps et de lieu, tout le conditionnement dans lequel étaient nés ces conciles, ces grands conciles. Et montrer que ce conditionnement historique était important pour comprendre mieux ce qui avait été affirmé. Tout ça était très bien. Et les cours du père Genu étaient passionnants. Ah ben, je me suis passionné pour les cours du père Genu. Je les aimais beaucoup. Et j'étais tellement passionné, c'est que le père de Haut lui-même m'avait dit, puisque tu es métaphysicien, que c'est ça la pente normale de ton intelligence au plan philosophique, fait une thèse sur un point d'histoire dans l'ordre avec le père Genu. Donc il n'y avait aucune opposition avec le père Genu. Je l'aimais beaucoup. Et le père Genu m'aimait beaucoup du reste. Parce que je savais des quantités de choses qui se passaient dans les conseils d'études que le père Genu me disait. C'était pas le père Genu qui était en opposition vis-à-vis de moi. C'était pas du tout lui. Lui au contraire me poussait le plus qu'il pouvait. Parce qu'il m'aimait beaucoup. Et que ce côté affectif du père Genu jouait beaucoup chez le père Genu. C'était très dur et sympathique. Vous voyez, des gens comme le père Demand étaient beaucoup plus en opposition vis-à-vis de moi. Un beau jour, du reste, le père Genu m'a dit, c'était très, très curieux au moment où je passais. c'est l'électorat. Le père de Mans enseignait la théologie dogmatique, donc le péché originel. Et dès que le père de Mans touchait les dons du Saint-Esprit, ou le péché originel, où il fallait là quand même un regard métaphysique, il n'y comprenait rien. Donc il nous disait des choses qui n'étaient pas du tout selon la grande tradition thomiste, saint Thomas. Il disait des choses au niveau moral, au niveau de la prudence, ce qui restait à ce niveau-là. Alors, j'étais là très, très en opposition vis-à-vis de son cours. J'apportais les grands livres de Jean de saint Thomas au cours. Je les ouvrais grandement en face de lui au moment où il critait Jean de saint Thomas. Et je suivais Jean de saint Thomas. Donc, j'étais très, très, très mauvais étudiant à ce moment-là, parce que j'étais dans un état d'opposition violente vis-à-vis du père de Mans. Et le père Chenu était avec moi, parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec cet aspect moralisant du père de Mans. Mais évidemment, je faisais du mauvais esprit en faisant ça. De sorte que ça m'est arrivé de devoir faire la vénia, ce qu'on faisait, quand de fait, on s'opposait trop sensiblement à ce que disait le professeur. Mais c'était...
La vénia, très... c'est de demander pardon.
Demander pardon à la fin du cours, mais dans vénia. Parce que, enfin, c'était pas un chahut. Mais c'était bien plus qu'un chahut.
C'était
une opposition violente. Et dans le cours, le père de Mans savait très bien que je faisais partie de ceux qui ne le suivaient pas et qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Alors, à un moment d'examen sur le péché originel, le père de Mans me pose la question. Je savais très bien ce qu'il avait dit. Et j'avais relu attentivement saint Thomas. Et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il avait dit. Et j'avais essayé de comprendre ce que disait saint Thomas. Alors, à ce moment-là, j'ai hésité. Comme étudiant, j'ai dit, est-ce que je vais dire tout simplement ce qu'il a dit correctement? Ou est-ce que je vais dire saint Thomas? Ben, je dis, bon.
Je connais la réponse.
Jouons à fond. Je vais dire ce que saint Thomas a dit. Et j'ai exposé ce qui me semblait être la pensée de saint Thomas. Je jouais le tout pour le tout. Et le père de Mans m'a mis une très bonne note. Alors que d'habitude, toujours, il me mettait une note. Et on le savait au conseil de faculté. Et le père Chenu, entre autres, aimait beaucoup ça, et qui me le disait du reste. Le père Héris, le père Chenu, étaient des gens qui étaient entièrement avec dans la perspective que je prenais. Et le père, alors à ce moment-là, quand on a dit les notes, le père Demand a donné cette note, tout le monde dit « Oh !» Il y a eu un éclat de... Et le père Demand a simplement dit « C'est le père Chenu qui me l'a rappelé. » J'ai été forcé. C'était la réflexion de moi. Vous voyez, le père Chenu me racontant tout ça, et on rigolait ensemble. Et avec le père Héris, qui était le dogmaticien, qui était le métaphysicien, le père Héris m'a dit à moi, vous êtes ma vieille béguille, parce qu'il n'y a plus que vous qui croyez à la métaphysique. Il y avait moi et puis mon frère Réginal, celui qui est mort à la guerre. Vous êtes mes deux vieilles béguilles, vous y croyez. Vous voyez, ce qui montrait que le père Héris sentait très bien un climat qui était déjà asséminé. Mais le père Chenu était entièrement dans cette perspective. Mais évidemment, alors dans son livre, à la place de montrer les deux, il a montré que la perspective historique. Alors que c'était pas du tout juste ça. Et c'était pas vraiment le père Chenu. Le père Chenu n'a jamais opposé à la métaphysique. Jamais. Mais il poussait toujours dans le sens de l'histoire. Et qu'un jour je lui ai dit, justement, vous êtes hégélien, mon père. Vous mettez l'histoire au même niveau que la métaphysique. Et voyez pas qu'en faisant ça, vous torpillez la métaphysique. Il dit, mais j'ai jamais lu Hegel. Alors c'est là où j'ai dit ce que je disais tout à l'heure, vous auriez dû le lire. Pour comprendre que c'était très grave. Vous êtes historien, mais vous avez eu une formation thomiste et vous aimez saint Thomas jamais vous opposer à saint Thomas. Et vous voudrez qu'il y ait, et vous voulez qu'il y ait toujours des métaphysiciens ce soir. Et alors vous êtes. Mais dans son petit livre, il montrait que, qu'au fond, l'histoire des dogmes, c'était le grand cours du Saujoie. Voyez, et qu'au fond, au Saujoie, on se mettait dans cette perspective-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a su la condamnation au Saujoie, on a dit, c'est le père Garrigou. Alors que pas ça du tout. Le père Garrigou avait écrit au père Genu, en disant c'est très grave ce que vous venez de faire. Parce que à ce moment-là, vous vous mettez dans une position qui est tout à fait en dehors de toute la grande tradition thomiste. C'est très grave. Et parce que le père Garrigou avait écrit ça, on a dit le père Garrigou, alors que c'est pas ça du tout. Un autre père, qui faisait partie de la province, qui était aussi à Rome, avait écrit au père Genu, parce qu'il aimait beaucoup le père Genu. Avec vous auriez, c'est une imprudence folle ce que vous venez de faire. Quand on jette des pierres dans une mare à grenouilles, elles se mettent à crier. C'était la carte qu'il avait envoyée au père. Il fallait juste lui montrer. Et alors, comment ça s'est passé? C'est un étudiant de la Grégorienne, donc des pères jésuites, qui faisait une thèse sur ce que t'es la théologie et qui a puisé dans le lit du père Genu une thèse pour montrer que la théologie aujourd'hui devait être une théologie de l'histoire et qui s'était tout dans le père Genu. Son directeur de thèse n'était pas d'accord avec lui et il a vu sur quoi il se reposait. Donc il a été regarder cette petite plaquette et c'est lui qui l'a introduite au Saint-Office. Pas du tout le père Garrigou. Le père Garrigou a fait l'inverse. Il a défendu jusqu'au bout le père Genu. Parce que c'était un frère. Mais il s'est introduit au Saint-Office. Et au Saint-Office, alors, ça a été condamné. Oui. Et on n'a pas demandé du tout. Et c'est ça qui a été très douloureux pour le père Genu. On n'a pas demandé du tout. C'était pendant la guerre. Hein, au père Genu de venir se défendre. Ce qu'on aurait dû faire. On l'a condamné en fonction de son écrit. Et en fonction de son écrit, on a dit, mais alors, est-ce que le Saujoire, c'est ça? D'où la visite au Saujoire. Pour voir si le Saujoire était encore saint au point de vue doctrinal, ou si, de fait, on était dans cette perspective. Vous voyez? C'est comme ça que ça s'est passé.
Et qui est-ce qui a fait la
visite? Alors, normalement, celui qui avait été nommé pour faire la visite, c'était le père Garrigou. Et ça aurait dû être le père Garrigou. Était de la province de Paris. Il ne faut pas l'oublier, le père Garrigou était de la province de Paris. Donc de la province du Saujoire. Et c'est lui qui aurait dû venir. Le père Garrigou a eu une force intense de venir au Saujoire. Ancien professeur, et puis qu'il avait été tout de suite était parti à Rome, a eu une force intense et a supplié le père Thomas, qui était professeur à Rome à ce moment-là, à l'Angélique, de venir. Et le père Thomas a accepté ce que je crois que moi il aurait dû refuser.
Il était très jeune.
Ah oui, puis il était ancien professeur. Prenez, quand tu es ancien professeur d'une faculté, on va pas, il me semble. Et puis j'y étais aussi. Alors le père Thomas a été coincé et il y a été. Alors j'ai assisté à cette visite canonique. Moi j'étais dedans, j'étais lié au père Thomas, puisqu'il n'y avait pas de raison que je l'aimais beaucoup. J'étais son ancien élève. Vous voyez, j'étais donc dans une situation assez particulière. Et j'ai vu à ce moment-là tout le climat. Je me suis dit, si on avait été au Moyen-Âge, on aurait empoisonné le père Thomas. On l'a pas empoisonné, mais c'était tout comme. Et moi, j'étais dedans, et je voyais bien le partage des eaux. Parce que c'était vraiment une colère au Saujoie de recevoir une visite comme ça. Et de recevoir cette visite. Vous voyez, visite. C'était pas commode du tout. Et alors, le résultat de la visite, c'est que le père Genu s'était fait d'avance, ne pouvait plus être recteur du Saujoie. Et alors, nouvelle gaffe, c'était de nommer le père Thomas recteur. On ne nomme jamais
celui qui a
un visiteur comme recteur. C'était la seconde. Tunga. Et moi, j'étais dedans.
Vous étiez dedans, cette
vie. J'étais dedans, c'est quand j'étais aux autres joies.
Ah, oui.
Donc, je vivais tout ça. En première loge.
Il y avait une ambiance épouvantable.
En première loge.
Oui. C'était à quelle époque?
Ça, c'était des gaffes successives. Et ça, c'est le père Carrego qui avait ses gaffes.
C'est pendant la guerre, tout ça?
C'était sitôt la guerre. Après la guerre.
Donc le père Thomas est arrivé, votre jeune frère, comme prieur,
comme recteur, comme
recteur des études,
remplaçant le père Jeunet.
Avec plein de gens très hostiles, donc...
Évidemment, on aimait le père Thomas, affectivement, mais on ne pouvait pas supporter ça. Et je crois que là, le père Thomas aurait dû refuser aussi. Il l'a fait en disant, mais après tout, c'est peut-être moi qui... Il l'a fait vraiment par amour pour le père Jeunet. C'est ça qui est le plus terrible. Parce qu'il aimait le père Jeunet. Il ne voulait pas. Un autre aurait été sans doute beaucoup plus dur. On aurait envoyé un père jésuite. Ça aurait été beaucoup plus dur. Mais c'était des situations impossibles. Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on a fait du père Chenu à ce moment-là? On l'a empêché d'enseigner?
Je n'oserais plus dire exactement. Je sais qu'il devait être écarté momentanément. C'est sûr que c'était une situation impossible pour le père Jeunet. Il a beaucoup souffert.
Et le Sochoir est devenu quoi à partir de ce moment-là?
Le Sochoir a continué, mais vous voyez, il avait du plomb dans l'aile. Forcé. Grâce à Dieu, moi je suis parti à Fribourg. C'est ça qui m'a sauvé. Parce que c'était pas commode.
Attendez, je remets le... Oui, donc, vous êtes retourné à Fribourg, vous avez donc enseigné pendant très longues années la philosophie, et c'est de là-bas à Fribourg, en tant que professeur de philosophie et prédicateur, que vous avez vécu le Concile Vatican II, où vous n'avez pas été présent au Concile, vous l'avez vécu à Fribourg.
Oui, je n'ai pas été présent. Le père général d'alors, des Dominicains, m'a dit « Je ne vous demande pas de venir parce que, officiellement, vous êtes un professeur de philosophie et que ce sont les théologiens qui sont experts. » Alors, je lui ai dit « Mon maître général, j'ai dit mon révérendissime père, c'est très bien, je suis beaucoup mieux de rester à Fribourg. C'est comme ça que je suis resté à Fribourg. J'ai vécu le concile avec très proche de Monseigneur Charrière. » Était l'évêque de Fribourg à ce moment-là. Et Monseigneur Charrière était un grand ami. Parce que c'était un ancien professeur, du reste, de droit canon de l'université. Un ancien élève de l'Angélique. Il était toujours très proche de tous les pères dominicains qui enseignaient. Et on avait la possibilité de le rencontrer très facilement, sans demander de rendez-vous, parce qu'on savait que à une heure fixe de tous les matins, il descendait de Saint-Justin, l'œuvre qui est pour les étudiants d'Afrique et d'Asie. Il descendait de Saint-Justin à l'évêché et se fait essayer de se poser sur le parcours pour qu'on puisse immédiatement s'adresser à lui et parler avec lui, ce que j'ai fait de nombreuses fois. Surtout pendant le concile, quand je savais qu'il revenait, il revenait assez régulièrement. Je ne dis pas ce que lui m'a dit, parce que c'est inutile. Mais je suivais par là de très près le concile, grâce à lui, parce qu'il avait une totale confiance. Le concile, c'est vrai, a été pour l'Église un très grand moment. Concile pastoral, personnellement, Saint-Père lui-même l'a signalé, comprendre le Concile Vatican II dans la lumière de tous les autres conciles, et comme apportant et rappelant quelque chose qu'on savait déjà, qu'on avait besoin de réentendre, cette exigence si forte de la charité fraternelle. Et c'est ce qui me semble être, moi, le grand point, le grand apport du Concile. Demander à tous les membres du peuple de Dieu, à tous ceux qui sont des hommes de bonne foi, de chercher ensemble la vérité, de la chercher avec un amour encore beaucoup plus grand, puisque le bien commun de l'humanité, c'est bien cette recherche de la vérité à tous les niveaux, pour que à partir de là il y ait une compréhension beaucoup plus profonde les uns par rapport aux autres. Ne pas regarder en premier lieu les oppositions. Tu ne me comprends pas, tu es dans une position toute différente, mais regarder au contraire en premier lieu ce qu'il y a de commun entre tous les hommes, aussi bien nos frères orthodoxes et nos frères protestants, que le peuple d'Israël, que les musulmans, et que tous ceux qui ont quitté Jésus ou n'ont jamais entendu parler de lui. Cet effort que réclame le Concile de voir ce qu'il y a de positif dans chaque homme et dans tout ce que les hommes recherchent à travers leur culture, à travers leur patrimoine spirituel. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'attitude de notre pape d'aujourd'hui. On est en face d'une grande montée d'athéisme au point de vue intellectuel, comme elle n'a jamais eu lieu. C'est vrai, quand on regarde l'histoire de la pensée, on n'a jamais vu ce qu'on voit depuis 150 ans. Toutes ces idéologies athées proclamant la souveraineté de l'homme, ou désirant proclamer cette souveraineté de l'homme. Et c'est bien cela, je crois, qu'il y a de tout à fait nouveau au point de vue de la pensée. Sorte de d'autonomie de l'homme qui veut être parfaitement lui-même et qui prétend un peu se sauver par lui-même grâce à ses connaissances, grâce à la technique. Et le Concile nous montre que c'est par une charité, par un amour plus grand vis-à-vis de l'homme qu'on pourra sauver l'homme. Ce n'est pas en prenant des armes semblables à ceux qui professent une idéologie athée qu'on pourra être ce que Jésus réclame de nous. Vatican II me semble être un très grand tournant dans l'Église, où l'Église réclame de nous, de chacun d'entre nous, de tous les chrétiens, de tous les hommes, une conscience plus aiguë et plus profonde de ses responsabilités. On est dans un combat beaucoup plus caché, beaucoup plus intérieur, et réclame donc de tous les chrétiens une attitude plus intérieure et plus profonde. On doit être, j'allais dire, plus branché directement sur Dieu et sur Jésus pour pouvoir avoir une confiance plus grande les uns envers les autres, une confiance plus grande envers même ceux qui, à première vue, semblent très éloignés de nous. Je me souviens d'avoir été à Rome pendant le Concile. C'était la veille où l'encyclique sur l'Eucharistie allait paraître. Et il y avait pas mal d'agitation à ce moment-là. Et entre autres, un cher évêque maintenant sur la terre, ensemble. Et je lui disais que pour moi, étant très plongé dans l'évangile de Saint Jean, je voyais cette dernière étape de la vie du Christ dans cette dernière semaine, où justement Jésus ne condamne plus. Et comprend que pour sauver son peuple, ce n'est plus la discussion, ce n'est plus le temps de la discussion. C'est le temps d'une offrande beaucoup plus profonde de tout lui-même. C'est le temps où Jésus lui-même s'offre dans la dernière semaine de Jésus sur la terre, selon l'évangile de Saint Jean. On voit bien combien Jésus ne prend plus les initiatives. Il répond et il accepte que les événements passent devant. Et c'est peut-être ce qu'il y a de si grand dans cette dernière semaine où Jésus s'offre comme un agneau, victime d'amour, pour sauver par l'amour. Mais c'est aussi dans cette dernière semaine que Jésus, face à Pilate, dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Dans la dernière semaine, dans Saint Jean, il y a comme une sorte d'éclatement où on voit Jésus présent à l'aspect politique, au grand prêtre qui représente des traditions religieuses, et où il affirme d'une manière si simple mais si profonde qu'il est vraiment l'envoyé du Père pour tous les hommes. Il y a les extrêmes dans cette dernière semaine qui apparaissent avec une très grande force. Il y en a un petit peu cette impression que depuis Vatican II, il y a comme une sorte d'éclatement de l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église n'existe plus, mais il y a une sorte d'éclatement où le Saint-Père lui-même est en présence des situations les plus extrêmes de l'humanité et où lui-même rappelle cette exigence profonde de la sagesse de la croix, du primat de l'amour et de rechercher à travers tout la vérité. Il y a quelque chose de très grand Saint nous demande de vivre. C'est comme ça que personnellement Vatican II m'apparaît. C'est qu'il y a comme un dépassement qui est exigé de nous vivre beaucoup plus immédiatement notre finalité dans cette espérance eschatologique, dans cette foi, dans ce qu'elle a de plus profond, de plus exigeant, de plus contemplatif. Et dans cette charité fraternelle très intense.
Donc pour vous, l'ouverture au monde, telle dont on a beaucoup parlé à Vatican II, vous l'interprétez essentiellement comme une exigence de charité fraternelle.
Exactement.
De compréhension de ce que vit le monde moderne.
De ce qu'est l'homme et de ce que...
Et vous cherchez à le faire principalement à travers la philosophie, notamment.
Et je vois que, pas principalement, j'ai dit, premièrement, pour chacun d'entre nous, ça exige une réflexion très profonde. Découvrir mieux ce qu'est l'homme. L'homme est un peu en situation limite aujourd'hui. Alors on pourrait beaucoup parler de cette question de situation limite, mais parce que je crois que c'est un des concepts de la philosophie moderne extrêmement important.
Oui.
Et très, très, que la philosophie d'Aristote ne voyait absolument pas. Et que nous devons aujourd'hui beaucoup creuser. Parce que c'est justement là où on voit comment le conditionnement peut devenir tellement fort qu'il efface le point de vue de la finalité. On est comme absorbé par ce conditionnement. Je prends toujours cet exemple que j'ai vécu beaucoup à Fribourg, de la neige. Les premiers dernières années, on avait augmenté de temps les recherches scientifiques. Et maintenant, en 10 ans, le capital des découvertes scientifiques augmente, double, s'intensifie. On est à un rythme de croissance tel qu'on n'arrive même plus à assimiler toutes ces découvertes. Tellement ça va vite. Oui, là, l'ordinateur joue un rôle important. Et c'est vrai que lorsque le moment où on ne peut plus assimiler les nouvelles découvertes, je crois qu'on est devant une situation limite pour l'intelligence. Elle ne peut plus. Elle n'a rien phénomène de rejet. Pourquoi les quantités de jeunes aujourd'hui, par exemple, ne s'intéressent plus du tout à tout ça, alors qu'avant, les gens s'intéressaient? Il y a un phénomène de rejet. On ne peut plus. On en a assez. On en a ras-le-bol. C'est très significatif, ça. Ça fait partie de cette situation limite devant laquelle l'humanité semble se trouver. Alors, n'exagérons pas, nous savons très bien, en tant que chrétiens, que on est victorieux de toutes ces situations limites, qu'il y a en nous quelque chose de plus grand, puisque c'est la victoire du Christ. Mais on voit bien que cette pauvre humanité, celle qui n'a pas la foi et l'espérance dans le Christ, est un peu errante. Elle ne voit plus d'issue. On est lancé à une vitesse telle qu'on se dit où est-ce qu'on ira. Et alors, on comprend que l'angoisse augmente. Et je crois qu'on doit être très attentif à ce témoignage qu'on doit donner face à cette situation limite. Et là, la recherche philosophique joue un rôle important. C'est dans ce sens-là, évidemment, ce qui est plus important encore si on est chrétien, c'est la foi, c'est l'espérance et l'amour dans le Christ pour comprendre que le mystère de la croix n'est pas un mystère négatif, mais c'est un mystère de la grande victoire de l'amour. Jésus vit la croix comme victorieux de la mort, de la souffrance, et nous devons vivre comme des victorieux, non pas du tout proclamer cette victoire à la face de tous, mais victorieux au plus intime de notre cœur, en ayant une compassion et une miséricorde toujours plus grande à l'égard des souffrances que les hommes souffrent actuellement, à l'égard de tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans la première encyclique du Saint-Père, il y avait un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est lorsqu'il montre que l'humanité à ses débuts est arrivée à être victorieuse devant des animaux qui auraient pu être pour l'homme des ennemis terribles. Et le Saint-Père se demande si l'humanité d'aujourd'hui, face à des instruments de destruction très puissants, puisque l'homme arrive aujourd'hui à pouvoir détruire notre petite planète, je ne sais pas combien de fois, mais un nombre énorme de fois, est-ce que l'humanité arrivera à dominer cela comme elle a dominé ses premiers animaux? Et c'est beaucoup plus difficile puisque, de fait, ces instruments proviennent des hommes. Ce sont les petits-fils des hommes. Et donc, on a toujours un peu une admiration devant tout cela. Mais je crois que le Saint-Père là nous montre bien cette situation toute nouvelle devant laquelle on se trouve. Cette puissance extraordinaire à laquelle est arrivée la technique et la science.
Mais je crois, maintenant qu'on est effectivement...
Alors posez-moi une question.
Limite, posez-moi la question. Vous parlez de situation de limite de l'homme, vous parlez de la nation et de l'Église, on a l'impression effectivement que l'humanité vit un temps très spécial, et que ce soit des sociologues, des psychologues, des théologiens, des observateurs, tous les gens intelligents qui observent l'homme et qui observent l'humanité, se disent aujourd'hui... on ne sait pas du tout ce que sera le 21e siècle, et qu'on vit un enjeu capital en cette fin de siècle. Alors comment vous, en tant que philosophe, en tant que théologien, en tant qu'homme de Dieu, vous analysez cette situation? Comment est-ce que vous dégageriez ces enjeux qui se posent aujourd'hui à l'humanité en cette fin du 20e siècle?
Une des phrases qui m'a beaucoup frappé, que je cite souvent du reste, parce qu'elle m'a beaucoup frappé, troisième millénaire. Et le Saint-Père de 16 aura raison. Sans préciser, du reste. Ça reste comme un slogan pontifical, donc, qui est important à bien comprendre et à recevoir. Et le Saint-Père montre qu'il y a une tentation plus grande qu'il n'a encore jamais existé. Cette tentation de l'homme
Bergson parlait de supplément d'âme.
Bergson parlait de supplément d'âme, c'est exactement une surâme pour l'humanité. Et une sagesse contemplative, d'autant plus forte qu'elle puisse porter et relativiser ça, parce qu'on se laisse griser par la puissance. On confond autorité et puissance, et on ne voit plus que cela. De sorte que on est vraiment devant une situation toute nouvelle, personnellement, moi, au plan philosophique, quand j'ai étudié toutes ces idéologies athées qui se sont levées de notre Europe, et dans notre Europe, le berceau du christianisme, depuis 150 ans, on est très frappé de ça. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce que Saint Jean dit dans sa première épître. Les antéchrists, ils viennent de chez nous. C'est de cette Europe chrétienne que s'est levée, qu'a monté toutes ces idéologies athées. Et quand on étudie ces idéologies athées, on voit très bien qu'elles ne peuvent exister que dans une position antichrétienne. En réalité, c'est des antichristianismes qui vont jusqu'au bout et qui alors impliquent cet athéisme. Mais c'est toujours par le point de vue de l'opposition vis-à-vis du christianisme. On ne peut pas les comprendre autrement. On ne voit pas comment dans un pays qui n'aurait pas été du tout christianisé, ces idéologies athées auraient pu mordre comme ça. Elles sont nées d'un climat chrétien, mais de la corruption de ce climat chrétien. Et la corruption de ce climat chrétien aboutit à quelque chose d'énorme. Autrement dit, comme la fin de l'Empire romain a dû être quelque chose de très difficile à vivre, ici on a l'impression qu'on assiste à une fin d'une culture chrétienne européenne. Et devant cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les grands moyens?
Est-ce que pour vous, là, une petite parenthèse, c'est une condamnation de la modernité, ce que vous dites là? Parce que c'est un peu la thèse du cardinal Lustiger aussi, qui condamne assez fortement les Lumières et la modernité en montrant que, bon, ben...
C'est-à-dire que, vous voyez, c'est là où c'est très difficile, je ne peux pas accepter ces idéologies athées. Et ces idéologies athées sont-elles le fruit de la modernité?
C'est là la grosse question. Ou le fondement de la modernité.
Oui, et le fruit. Parce que pour moi, ces idéologies athées ne sont pas nées toutes seules.
Elles proviennent
du 14e siècle.
Avant les Lumières.
Avant d'Ockham. Quand on suit le point de vue c'est l'idéalisme. C'est un ontologisme qui a commencé avec Descartes. Si l'idée est première, ben, on est devant un orgueil fou d'avancer. Alors Descartes est encore dépendant de tout un climat religieux et chrétien. C'est la remarque si juste, mais si terrible de Sartre, qui dit « si Descartes était notre temps, il serait athée ». Parce que la logique du système de Descartes, que des quantités de bons catholiques ont absorbé, conduit nécessairement à un primat de l'idée. Et le primat de l'idée consiste à rejeter Dieu et mettre l'homme au-dessus de tout. Et d'être l'homme, la mesure de toute chose.
Donc pour vous, c'est Descartes qui est à l'origine de la modernité. C'est...
Avant Descartes, même avant Ockham. C'est très curieux, il y a une dépendance de Descartes avec Ockham. Parce que Descartes a eu comme... Alors là, il faudrait entrer dans tout ça. A eu des Suarésiens comme maîtres. Et Suarez, avec une très bonne volonté, a voulu sauver saint Thomas en face d'Ockham. Et donc a absorbé un peu Ockham. Et Ockham est entré par là, dans toute la scolastique décadente. Identification de la logique
et de la métaphysique.
14e siècle, un franciscain.
Et qu'est-ce qu'il a fait, Ockham?
Il a identifié la logique et la métaphysique. Et je crois que quand on identifie la logique à la métaphysique, c'est la logique qui passe devant. Et donc c'est l'idée qui passe devant. Et dans cette perspective, on est en présence du l'action l'emporte sur l'affirmation. Pour moi, c'est une clé, ça. Très fondamentale. Pour les anciens, toujours l'affirmation était première. Et la négation était d'après. Du reste, dans notre langage, c'est net. On dit ceci et ceci n'est pas. Et la négation vient s'ajouter à l'affirmation. La négation ne peut pas se tenir pour elle-même. Tandis qu'on voit progressivement des occams. Chez occam, c'est très caché. La négation qui devient première. Alors, chez Sartre, c'est éclatant. Mais il y a une continuité entre tout ça. Et la continuité, c'est pour moi, au plan philosophique et au plan critique, c'est une position de l'ontologisme, l'identification de l'idée avec le réel. Vous voyez ? Cette inversion que Descartes lui-même dit par rapport à Aristote. Donc, c'est pas une interprétation de Descartes, c'est Descartes lui-même qui le dit. Descartes dit « je tourne le dos à Aristote ». Et il le dit à un moment très précis, c'est que pour Aristote, la première interrogation du philosophe, est-ce que cela existe ? Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Et Descartes dit l'inverse. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Autrement dit, l'idée est première. L'idée vient de moi, elle est première. Elle a sa signification. Ensuite, je regarde si elle existe. Mais l'idée est plus précieuse que l'existence. Et l'idée, ça vient de moi. Et l'existence vient du Créateur. Et donc, à ce moment-là, on entre dans quelque chose qui va très loin, dont les fruits derniers se trouvent dans les idéologies athées. Dans toutes les idéologies athées, il y a le primat de l'anéantisation, le primat de la négation. La négation, qu'est-ce que c'est ? Au plan philosophique, c'est le fruit de mon intelligence. Mon intelligence est capable de nier. On sait très bien, quand le gosse découvre la négation, il est très fier. Il aime de nier à ce moment-là. Parce qu'en niant, il s'affirme. Mais il s'affirme en dehors des autres. Quand j'affirme quelque chose, je suis lié à l'autre. Je donne la main à ce qui existe. Quand je nie, je m'écarte. Et je me mets premier. La négation, c'est un être de raison. Fruit d'intelligence. Si je mets la négation première, c'est l'homme qui devient mesure de toute chose. Et Dieu, on ne peut plus le rencontrer. Puisque je ne rencontrerai jamais Dieu dans la négation. Et donc si la négation est première, je ne peux rencontrer que l'homme. Oui. Et c'est ce que dit très justement Nietzsche, qui est peut-être le plus intelligent de toutes les idéologies athées. Oui. Il montre que, de fait, dans la ville, je vois tout en disant l'homme. Quand je suis au désert, quand je suis dans la haute montagne, quand je suis en face de l'océan, je suis en face de quelque chose qui ne parle pas de l'homme. C'est extrêmement significatif, ça. Et c'est pour ça qu'on n'aimera pas d'être au désert, en face de la mer, réellement en face de la nature, parce qu'elle me parle de Dieu, alors que tout ce qui vient de l'homme me parle de l'homme. Et qu'est-ce qui est au plus intime de cela ? C'est cette négation. De sorte que, quand je parle de la modernité, il faudrait peut-être distinguer...
Oui. Parce que c'est pas en ce sens-là qu'on entend non, aujourd'hui la modernité.
Pas du tout, pas du tout.
Effectivement, vous allez plus loin, c'est-à-dire de manière
aux racines de au plan philosophique.
On entend plus sur le plan de l'histoire des idées, en disant qu'au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, l'avènement des droits de l'homme, les Lumières, surtout Rousseau, Voltaire, Kant en Allemagne, il y a eu un peu une émancipation, je dirais, de la société laïque par rapport aux religieux, qui a cherché on a cherché à avoir une morale laïque, on a cherché à avoir une interprétation, alors avec la science qui est née, une interprétation scientifique du monde au-delà de la vision religieuse. Donc la modernité, c'est plus fondée sur la raison, l'autonomie de la raison par rapport à la foi, la religion.
Je traduis ça philosophiquement.
Et qu'un Alustigi s'oppose violemment à ça en disant que c'est ça qui a amené toutes les grandes négations de l'homme du XXe siècle et que toutes les monstruosités du XXe siècle ont leur origine dans cette émancipation de l'homme par rapport à... Voilà, donc est-ce que vous partagez ce point de vue ou c'est autre chose ?
Je traduis ça dans un langage philosophique puisque... Oui. C'est que... Il y a eu un ontologisme. Ce que j'appelle ontologie, cette confusion de l'idée et du réel. Un ontologiste de droite
Oui, vous l'avez expliqué, ça n'est pas. Ah,
et bien
une réaction de Feuerbach.
La réaction, oui. Vous voyez, c'est contre son tentologie de droite.
Oui.
Et il y a quelque chose de légitime
dans cette réaction.
Cette réaction. Oui, oui. Parce qu'on ne voit pas assez l'autonomie de l'homme. Oui. Si vous voyez l'homme religieux uniquement et que vous oubliez l'homme, c'est pour ça que je tiens tellement à mettre une première éthique de l'amitié avant l'éthique religieuse pour sauvegarder l'homme.
D'accord. Donc, au fond,
dans la réaction qu'il y a, il y a quelque chose
de juste. Oui. Donc au fond, par rapport même à la modernité au sens où on l'entend, vous comprenez qu'il y a pu y avoir une réaction sur le plan philosophique et sur le plan même humain contre
un ontologiste de droite qui tuait l'homme. Vous voyez, soi-disant en exaltant Dieu. On n'exalte pas Dieu en tuant l'homme. Parce qu'on ne reconnaît pas son œuvre. Et le chef-d'œuvre.
Donc il y a eu un désir de redécouvrir l'homme.
De redécouvrir l'homme. Et ce désir avait quelque chose de légitime. Quelque chose de juste. Mais ce désir, comme presque toujours dans les luttes, on est devenu des contraires. On est retombé où on était dans la même erreur. Vous voyez, quand le Saint-Père oppose capital, du moins quand le Saint-Père montre que le capitalisme et le marxisme ont la même erreur parce qu'on oublie l'homme, je dirais que c'est la même chose. L'ontologie de droite et l'ontologie de gauche oublient la réalité profonde. Oublie l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Il y a dans l'homme cette recherche de vérité, cette capacité d'aimer, la finalité de l'homme. On ne voit que le conditionnement. Et alors, c'est la lutte. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire grande attention. Ne pas condamner. Voyez, on tomberait dans la même erreur. On retomberait en... Je crois qu'il faut considérer que nous sommes en face d'une situation limite grave. Qui exige d'aller beaucoup plus loin qu'on a été. Et pour moi, Vatican II, à ce point de vue-là, est prophétique. Parce qu'il m'oblige de dépasser tout ce qui avait été dit avant. Non pas du tout pour être en opposition. On ne passe pas d'une église à telle forme d'église à telle autre forme d'église. L'église triomphaliste à une église démocratique. C'est pas ça du tout. Il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Redécouvrir quelque chose de radical qui avait été oublié ou qui petit à petit avait disparu.
Et c'est quoi c'est ce retour à cette source à cette...
C'est redécouvrir dans l'homme sa finalité. Parce qu'au fond, aussi bien cette ontologie de droite que cette ontologie de gauche, vous voyez, qui a pris toute sa force en Hegel. Hegel est un tournant de la pensée à ce point de vue-là. Parce que lui, il est les deux, d'une certaine manière. On aurait dit à Hegel qu'il était source de tous les athéismes. Il aurait dit, non, j'exalte au contraire Dieu. Vous voyez ? Parce qu'il ne voulait pas être source d'athéisme. Il l'a été, de fait. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que des deux côtés, on est devant quelque chose qui était une fausse piste et qui provient au fond d'un orgueil intellectuel, le primat de l'idée, qui conduit au primat de la négation. Et ce primat de la négation nous coupe de nos racines.
Et dominer le XXe siècle.
Voilà, dominer tout le XXe siècle. Et que le Saint-Père, quand il dit « Préparons-nous au troisième millénaire », je crois que le Saint-Père dit « Attention, attention, si vous continuez comme ça, vous allez à la catastrophe. Réveillez-vous, quoi. » Tout cet appel au renouveau. Tout ce pèlerinage à Compostelle, tout cela est dans le même sens. Quand le Saint-Père réunit à Assise, tous ceux qui croient encore en Dieu, qui adorent, c'est la même chose. C'est un appel impératif en disant « Attention, nous sommes tout proches de catastrophe. Réveillez-vous. »
Mais pour beaucoup, le pape actuel dit « Bon ben revenons au Concile de Trente, revenons à la bonne vieille doctrine, revenons aux certitudes. » C'est tous ces livres qui sortent, le retour des certitudes, le rêve de Compostelle, pour dire Jean-Paul II, c'est un retour à la chrétienté, aux certitudes, face à l'angoisse de l'avenir. Est-ce que c'est la solution ?
C'est pas du tout ça, c'est pas Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est celui qui, de fait, veut mobiliser tout ce qu'il y a encore de juste dans l'homme, pour que l'homme comprenne cette situation limite devant laquelle il est, pour qu'il puisse en sortir, encore qu'il est encore temps. Il y a encore une possibilité d'en sortir. Et donc, ce n'est pas du tout un retour à un christianisme tel qu'il a été vécu. Ça, c'est tout à fait contraire à la pensée du pape. C'est redécouvrir. sa propre, ses propres opinions. Si c'est conforme à nos opinions, bravo. Si c'est contraire, on s'oppose. Mais quoi ? Écoutez, il a quand même une expérience plus grande que vous. Il écoute bien plus de personnes que vous. Il a l'écoute. Et si on est chrétien, on dit il a la grâce. Pour ça. Et alors à ce moment-là, on voit que ce qu'il dit est au-dessus du Concile de Trente, de Vatican II. Il les respecte, il en vit, il aime Vatican II, il aime le Concile de Trente. Mais ce n'est pas du tout un retour en arrière. C'est impossible ce retour en arrière. C'est au contraire un renouveau qui essaie de reprendre les valeurs les plus authentiques dans la vie religieuse. Dans la vie intellectuelle, chez les théologiens, et l'homme, tout simplement. Il parlera aussi bien un savant, et pour montrer aux savants que ce qu'il fait est grand, et qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à sa science. Donc, je crois que c'est un appel très profond à l'homme d'être plus profondément ce qu'il doit être en face de la sagesse de Dieu. Et en face de sa propre conscience, aujourd'hui, pour ne pas être ceux qui continuent d'aller vers quelque chose qui est un danger, s'enfoncer dans cette situation limite, sans voir aucune issue. Il me semble, c'est pour ça que personnellement, ça m'a beaucoup éclairé, cette conversation avec cet évêque pendant le concile. J'ai pensé, parce que quand on lit Saint Jean, on ne peut pas ne pas empêcher de voir que la dernière semaine, c'est une semaine, la grande semaine. C'est la seule semaine qui est révélée comme semaine. C'est très curieux, là. Mais cette grande semaine, l'Église doit la vivre. C'est impossible autrement.
Est-ce que l'Église doit vivre ce qu'a vécu le Christ?
Ouais, exactement.
Donc la chrétienté, c'est un petit peu, avec les ordres mendiants, c'est la prédication.
Exactement, c'est la prédication.
La période apostolique du Christ, et maintenant l'Église vivrait la passion du Christ.
Les grandes luttes, et l'Église maintenant vit. Et qu'elle entre. Et alors évidemment, là, je ferai appel à des gens comme Marthe Robin, qui sont comme des témoins. La petite Thérèse, qui sont comme des témoins. Et qui montrent qu'on entre dans quelque chose de tellement important pour l'Église. Quelque chose d'unique. Parce que moi, je crois que si on lit attentivement l'Apocalypse, l'Apocalypse nous donne quand même une lumière d'éternité à travers le temps. Et elle montre que la mission de l'Église est la même que celle du Christ. Le Saint-Père, du reste, l'a rappelé d'une manière très nette dans sa première encyclique. La mission de l'Église, c'est la même que celle du Christ. Si la mission de l'Église est la même que celle du Christ, eh bien, je crois que c'est dire que l'Église doit vivre ce que le Christ a vécu. Et le terme de la vie du Christ, c'est quand même ce grand mystère de la croix, qui est une grande victoire cachée. C'est ça le grand mystère de la foi. C'est une grande victoire cachée, la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, la science, la technique, essaie d'être victorieuse de la mort. Essaie d'être victorieuse de la souffrance. En tant que chrétien, nous savons que seul le